room. C'est le 16 mars. Il commence pour moi 15 jours très très occupés avec différentes choses que je dois faire et auxquelles je dois réfléchir. Et parmi ces choses, c'est un sujet de la générosité auquel je suis amenée à réfléchir à ce sujet et faire quelque chose avec. Et c'est intéressant comme thème en fait. Je pensais là, pendant l'assise, à une histoire que je raconte de temps en temps, qui est. C'est le Dalai Lama qui raconte que, il y a des années, il donnait un enseignement pendant plusieurs jours dans un grand. Je crois que c'était un stade ou salle de concert, je ne sais pas, à Los Angeles. Et donc il restait à Los Angeles pendant plusieurs jours. Et pour aller de son hôtel où il logeait à l'endroit où il donnait ses enseignements, ses conférences, il y avait une longue route, enfin, tout en Los Angeles est longue parce que tout est très 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 espacé et il faut prendre la voiture et rouler pendant un certain temps d'arriver du point A au point B. Et donc c'était comme ça. Et il disait que chaque matin il longeait un grand boulevard le long duquel il y avait tout un tas de magasins d'électronique. Et il s'est rendu compte que quand il traversait, il passait devant ses boutiques, il regardait tous ces appareils, ces objets électroniques, électroménagers, audiovisuels, informatiques, je ne sais pas ce que c'était, mais tout un tas de choses. Il ne savait même pas ce que c'était la plupart de ces choses. En même temps, il s'est rendu compte qu'il les voulait. Parce que lui, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, c'est l'électronique. Il aime bien, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas quel film c'était, mais quand il était petit, il aimait bien... C'est une histoire de sa vie, c'est un film, je ne me souviens pas lequel c'est, mais il aimait bien prendre une radio, comme une radio réveil, le défaire,
décomposer,
démonter, voilà, démonter, et le remonter. Fasciné par le fonctionnement, les différentes pièces, comment... on mettait cette fil ici et ça faisait ça, et etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, la mécanique, l'électronique, etc. Et donc, il voyait tous ces objets électroniques et il les voulait. Il ne savait même pas ce qu'ils étaient, la plupart. Il n'avait aucune idée de ce que c'était, mais il le voulait. Et il racontait cette histoire pour illustrer son propos qui était, je ne me souviens pas ce que c'était, c'était avec notre, je pense que c'était quelque chose à voir avec notre notre cupidité, notre désir de prendre, d'avoir, d'accumuler, de posséder, qui dépasse toute rationalité, en fait. On veut toujours plus, on veut toujours quelque chose d'autre, on veut être quelque chose, quelqu'un d'autre, on veut être ailleurs, on veut une autre voiture, un autre stylo, une autre paire de chaussures, et même aujourd'hui on veut changer de visage, même on veut changer de sexe, c'est autre chose tout le temps. Et c'est je ne juge pas tout ça, je constate simplement que c'est vrai pour moi, et je regarde autour de moi et c'est vrai pour tout le monde. Ça prend différentes formes, ça manifeste différemment. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la générosité? Si on regarde cette histoire de Dalai Lama, c'est le fait qu'il raconte ça devant cette assemblée des milliers de gens qui sont là pour recevoir un enseignement, etc. Quelque chose de très élevé, très spirituel. Et il raconte cette histoire qui a à voir avec lui et son histoire. C'est très généreux. Il n'est pas attaché à une image de lui, à une idée de ce qu'il doit partager ou pas partager, ce qu'il doit garder pour lui et offrir aux autres. Il offre ça gratuitement, d'une certaine façon. Il se donne comme exemple. Il n'est pas attaché à une idée de lui non plus, de quelqu'un qui doit être au-delà de ça. Donc, il est généreux avec lui-même. Il n'est pas... il ne se limite pas. Il n'est pas radin avec son identité même. C'est-à-dire, il s'ouvre à tout, en fait. Et cette histoire, pour moi, ça illustre l'histoire que le Dalai Lama raconte, et puis l'histoire que moi je raconte au propos du Dalai Lama, illustre ce qui, quand je reste avec ce concept de générosité, et j'essaie de revenir à ce qui est le plus intime avec ça, ça revient à ça. Lâcher mon identité de qui je suis, de qui je pense que je suis, et de pouvoir donc s'ouvrir à l'instant et faire ou dire ou agir librement. C'est cette... Récemment, j'ai appris, je pensais que c'était Maizumi Roshi qui donnait un exemple, mais en fait, j'ai lu récemment que c'est Dogen, et donc c'était probablement Maizumi Roshi qui citait Dogen. Mais moi j'ai toujours pensé que c'est venu de Maizumi Roshi. Mais il disait, je ne me souviens pas exactement la phrase de Dogen, mais c'est que si on a notre main, si on tient quelque chose dans notre main, c'est vrai, on l'a. On a l'illusion de l'avoir. C'est dans notre main, c'est enfermé dans notre main. Mais si on ouvre notre main, on a tout. Si on fait comme ça, on a juste ça. Mais si on ouvre notre main, on a tout. Et c'est de ça dont il s'agit. On a cette conviction qu'il faut s'accrocher, qu'il faut posséder, qu'il faut tenir à quelque chose, quand en fait... ça nous empêche d'être qui on est véritablement, d'être en phase avec les situations, de recevoir des gens, d'échanger, d'être en relation avec des gens, parce qu'on tient quelque chose. C'est comme cet autre, ce koan où on dit qu'il y a un homme dans un arbre qui est accroché à une branche avec sa bouche. Et il n'arrive pas à atteindre une branche avec ses mains, ni avec ses pieds. Et quelqu'un arrive et lui pose une question: quel est le sens de cette pratique? Et dans le Coran, on dit, s'il ne peut pas répondre, s'il ne répond pas, il perd sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est compliqué de traverser la vie avec une branche dans la bouche, quand même. Hein? Et être accroché dans un arbre. C'est très, très compliqué. C'est pour ça qu'on perd notre vie si on reste comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être libre? Pour communiquer avec des gens, c'est difficile si on a une branche dans la bouche. On ne peut pas vraiment parler. Pour répondre à cette personne qui demande quelque chose, qui, imaginons que c'est la chose la plus importante de sa vie, c'est la question essentielle pour lui, et nous, on est tellement accrochés à notre branche qu'on ne répond pas. C'est pas très généreux, ça. Donc, ce qu'on sait, il s'agit de générosité. Alors, la générosité, si, depuis quelques temps que je pense à ça, je le vois partout. Et en fait, ce que moi, on m'avait demandé de faire, c'est d'aborder bon, l'autre face, c'est-à-dire quels sont les obstacles à la générosité? Qu'est-ce qui nous empêche d'être généreux? Ce qui est un peu étrange, mais bon, j'ai accepté le défi de le faire. Et ça découle toujours de le même. L'obstacle est toujours le même, en fait. J'ai presque envie de dire que je ne peux pas écrire 4 pages de ça, je peux faire peut-être un haïku. Parce que ça se résume à quelque chose de tellement basique. L'attachement à moi. L'identité à moi. C'est ça dont il s'agit, dans tout ça. Bon, il faut élaborer, il faut tracer différentes possibilités, différentes façons de formuler ça, etc. Et bon, on verra. Et c'est vrai qu'on peut aborder ça autrement, dans le sens que, ok, il y a cet attachement à moi, mais on n'a pas à attendre de avoir un aperçu de notre véritable nature, quelque chose d'extraordinaire, pour être généreux. C'est pas ça non plus. Il s'agit d'être, de juste être avec ce qui est et agir en fonction. Et je pense souvent à cette histoire. Je sais pas si. Est-ce que quelqu'un d'autre était, un de vous deux, était à un workshop que Yves Marco nous a fait à propos du le portail du nectar à Dana? Oui, tu étais là. Et pendant cette workshop, elle nous a raconté une histoire qui, je crois, vient de ces histoires du rabbi Nachman de Breslov. Tu te souviens de cette histoire ou non?
Pas encore.
La pomme.
Quoi?
La pomme.
Non. Je cherche depuis longtemps, depuis des années, à trouver cette histoire. Je ne trouve pas. Mais bon, ce que je me souviens de cette histoire, c'est que il y a. C'est, je ne pense pas que c'est un rabbin. Mais peut-être. Mais c'est un. De toute façon, c'est un homme riche. Enfin, qui a une situation. Et tous les jours, quand il va, je ne sais pas, à son travail, je ne sais pas, il passe devant un mendiant. Ça te dit quelque chose, cette histoire?
Oui.
Bah, donc,
Enfin, je ne
si.
sais pas si c'est
Okay.
celle à laquelle tu penses, mais.
Parce qu'il y a beaucoup d'histoires
la
qu'il raconte.
Femme qui ne dit rien et qui, elle, donne.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Tu te connais cette histoire? Oui. Bref. Donc, si j'oublie les choses, je te demanderai. Et donc, c'est un rabbin ou c'est juste un...
Je pense que c'est un rabbin.
Et donc, il sait que l'enseignement de Dieu, c'est que la plus grande chose qu'on puisse faire, c'est la charité, c'est de donner aux autres. Ouais, un truc comme ça. C'est probablement plus joli comme formulation, mais c'est ça l'idée. Et donc, il voit ce mendiant tous les jours qui passe et il décide que... il veut l'aider, il veut lui donner quelque chose. Mais il sait aussi qu'il y a un enseignement de Dieu, c'est qu'il faut donner sans être vu en train de donner. Et non, c'est quelque chose comme ça. Peut-être ça te dirait
oui,
tout
si,
cette
si,
histoire
tout à fait, si, si,
oui.
Si, je me souviens de la chute.
Oui, et donc il dit, ok, donc je vais passer de l'eau, il y a un muraille, il y a le mendiant qui est contre le muraille, il dit, ok, je vais passer de l'autre côté du muraille. Et quand j'arrive au niveau du mendiant, je vais jeter quelque chose. Et il fait ça plusieurs fois. Et le mendiant trouve ça bizarre. Qu'il a... Je ne sais pas si c'est du pain ou des pièces ou je ne sais pas ce que c'est, mais qui arrive comme ça. Plusieurs nuits, plusieurs soirs, c'est comme ça. Et donc, un soir, il dit, mais il va le poursuivre, mais je ne me souviens pas exactement comment. Mais. Et donc, il poursuit le rabbin, après que c'est jeté. Il le poursuit, et c'est là où ça devient un peu flou, pour moi, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, le rabbin se rend compte qu'il est poursuivi, et il court et il finit dans un impasse. Ça vous dit quelque chose?
Cette partie-là, non.
Oui, où il y a une espèce de...
Je me souviens de la chute avec sa femme.
Oui, oui, mais c'est parce que sa femme va venir là. Dans un impasse où il est... c'est le fonderie de la ville, ou je ne sais pas. Il y a un feu, il y a un incendie, une fournaise, ou un truc comme ça. Et il n'a pas de choix, il est obligé d'aller dans cette pièce pour se cacher. Et c'est très très chaud. Et il s'enferme là-dedans et il ne peut pas se libérer. Et le mendiant a vu qui c'était en fait. Et finalement, le gars n'arrive pas à sortir. Et donc le mendiant va chercher sa femme qui vient ouvrir. Et sa femme arrive à venir et elle, pour elle, c'est rien du tout, la pièce n'est même pas chaude, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne me souviens pas de cette histoire exactement, cette partie-là, mais il dit, mais attends, mais... et elle lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Et il explique l'histoire, etc. Et elle dit, ah, ben oui, je connais cet homme. Et... Là, ben, mais comment tu le connais? Et comment ça se fait que toi, tu as pu rentrer dans cette pièce et ne pas sentir qu'il faisait chaud, que tu étais tranquille comme tout? Et elle dit, je connais cet homme parce que après que tu partais le matin, il passait devant et je lui proposais, je ne sais pas s'il frappait à la porte, et je lui donnais du café, je prenais un café avec lui tous les matins. Et donc, le moral, la chute de l'histoire, ça vous dit ça?
Oui, oui,
ça,
je me souviens.
Oui. La fin, oui.
Oui, l'histoire de la chambre
oui,
chaude, ça,
oui,
je me
souviens. Oui, mais c'est important, cette histoire, parce qu'il y a un moral dans le truc, c'est qu'elle donne librement, sans réfléchir au fait qu'elle donne, et en fait, c'est elle qui n'est pas vue en donnant, tandis que c'est lui qui, en essayant de se cacher, qui est séparé de son acte, qui... ne fait pas ce que Dieu souhaitait, et donc c'est une espèce de... Il y avait le truc où c'est lui qui est en enfer parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu voulait, etc. Bon, voilà, un truc comme ça. Alors, c'est intéressant parce que... Est-ce qu'on veut être vu dans notre grande charité. Et si c'est ça, bon, c'est pas mauvais. Le rabbin, il lui donnait à manger, il lui donnait des pièces, ok, pourquoi pas. Mais c'est pas la même chose que la femme qui faisait juste ce qu'il avait à faire. La différence, c'est que lui, il y avait lui qui était dedans. Moi, je qui le fais. Elle, c'était pas du tout ça. Elle avait du café, le monsieur venait, elle discutait avec lui, elle donnait un café, c'est tout. Alors, ce qu'on a à lâcher, en fait, c'est cette petite différence. Et il y a Trungpa Rinpoche qui disait en fait, l'idéal, mais bon, c'est qu'on donne les choses qui nous sont les plus chères, les choses auxquelles on est le plus attaché. On sait qu'on est vraiment libre quand on peut donner ça librement, de même titre que si on donnait quelque chose qui on ne réfléchit même pas à le donner. Parce qu'on s'est libéré de cette notion de posséder. Et ça ne veut pas dire ne pas apprécier soi-même, l'autre, les objets, les choses, la nourriture qu'on a, etc. C'est pas ça dont il s'agit. C'est pas que c'est pas important. C'est tellement important, tout est tellement important qu'on peut le partager librement. Et toute personne est importante, etc. Et ce qui nous empêche, c'est cette moi. Et même ce désir de posséder ou le désir de donner. C'est ça aussi. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner tant qu'on n'est pas complètement libéré de cet attachement. Parce qu'on ne sera jamais libéré de cet attachement. Absolument, etc. C'est pas comme ça. C'est comme cette autre histoire où il y a la petite fille sur la plage avec toutes les poissons étoiles. Les étoiles de mer. Les étoiles de mer. Qui sont échouées sur la plage. Et ils vont mourir. Et donc elle a son petit seau et elle est là. Elle met quelques étoiles de mer dans son seau et elle les jette à la mer. Elle les amène et elle les jette à la mer. Il y a un adulte qui arrive qui dit... Il demande ce qu'elle fait, elle explique. Et l'adulte, qui sait tout, très logique, rationnel, etc., dit, mais c'est bien sympa, hein, mais attention, hein, tu ne vas jamais pouvoir tous les sauver. Hein. Et la petite fille dit, bah oui, peut-être, mais pour ceux que je mets dans l'eau, ça fait toute la différence. Et donc c'est ça, on a un petit seau, on peut juste prendre quelques-uns et le mettre. C'est ça être généreux. C'est avec là où on est, avec qui on est, avec qui on est, on fait. Avec des moyens, des ressources, d'énergie, le temps, etc. qu'on a. Sans s'attacher à une idée de « il faut faire ceci ou cela ». Je remarque, c'est intéressant parce que quand les gens ils entendent que je travaille avec des réfugiés, etc., régulièrement les gens m'interrogent là-dessus et disent ah, j'aimerais bien le faire aussi, etc. Et de temps en temps il y a quelqu'un qui me demande mes coordonnées et qui contacte, bon, il y en a certains parmi ceux qui m'interrogent, qui demandent mes coordonnées. Il y en a certains parmi ceux qui m'ont demandé les coordonnées qui passent à l'acte. Il y a certains qui ne le font pas. Et parmi des gens qui l'ont passé à l'acte, qui l'ont contactés et qui sont allés sur place. Je pense qu'il y a une, il y en a une qui vient qui vraiment le fait. Et les autres, je crois, il y en a une qui m'avait dit que ça correspondait pas du tout à ce qu'elle pensait. Elle voulait vraiment être en contact, faire quelque chose de très concret, les apprendre le français ou faire des choses, tisser des liens avec eux, etc. Plutôt que de dire ok, c'est ce qu'il y a à faire, c'est de les accueillir quand ils arrivent, de les amener dans leur champ, de faire des lessives, etc. Avoir une idée très fixe sur ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire ou pas faire, je pense que ces gens, ils n'ont pas fait. Il y en a certains, je sais, ils n'ont pas trouvé une autre structure. Ils n'ont pas vraiment cherché, je crois. C'est juste un exemple d'être... Si on peut être généreux avec nos idées et ne pas être attaché à une idée de ce qu'on veut faire ou pas faire. Évidemment, on a un discernement de savoir ce que je veux faire ou pas faire. Mais est-ce qu'on peut le lâcher par moment et juste faire ce qu'il y a à faire? Et être généreuse avec soi-même et ne pas chercher à être quelqu'un, d'être intelligent, être bête, être rigolote, être... intéressant, être... je sais pas. Lâcher tout ça. Donner ça à l'univers. Et en échange, on reçoit l'univers, en fait. J'aimerais bien entendre si vous avez des choses à dire sur la générosité. Ou ce que ça vous fait penser, ou...
Oui, mais ça me fait penser au précepte qu'on récite. Tu me demandais là, le rakusu est l'un des, au moment de la cérémonie, l'un des engagements que l'on comprend, c'est I vow to refrain from being stingy with the Dharma. Je fais le vœu de me réfreindre d'être stingy, avide. Oui, avide. Non, le contraire, oui, radin avec le. Hein?
Oui, parce qu'en fait, c'est especially with the. Je fais especially. Le vœu de ne pas être.
Stingy, especially with the Dharma. Mm. Et le dharma, c'est toujours un terme que j'aime beaucoup, ce fait que le dharma, c'est polysémique, c'est à la fois l'enseignement, au sens vraiment limité du terme, et vraiment les enseignements bouddhistes, mais c'est aussi les phénomènes, donc c'est la réalité, donc c'est vraiment, ça me fait penser à cette histoire quand tu parlais, on a le morceau de bois, la branche entre les dents, et particulièrement avec les phénomènes, avec la réalité, de pas être, de garder ça, et de, au contraire, d'être dispendieux.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux élaborer sur ce truc avec la réalité?
Oui, puisque don't be stingy with reality. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que ce serait être stingy with reality? C'est de voir quelque chose d'extrêmement limité. De voir un tout petit bout, de s'accrocher à cette branche en disant voilà, ça doit juste être ça la réalité.
Ah oui, c'est vrai.
Et, Et quand on ouvre, c'est pas juste l'enseignement, mais l'enseignement, ça parle de quoi ? Ça ne parle que des phénomènes, que de la réalité, de voir les choses telles qu'elles sont. L'enseignement, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, ne pas être stingy, radin avec ça, c'est le versant un peu négatif de la générosité. C'est la formulation négative de experience generosity.
Oui, c'est ça.
Et l'autre chose à laquelle ça me faisait penser, c'est que je regardais aujourd'hui, j'ai regardé un bout d'un documentaire de Michael Moore sur le capitalisme qui m'a fait penser et qui expliquait qu'au cœur du capitalisme, il y a la notion de cupidité, d'avidité. En fait, c'est vraiment au cœur, sans l'avidité, ça ne fonctionne pas. Il y avait un économiste, Daniel Cohen, qui avait écrit un livre vraiment sur ça, sur le pointant le ce qui est au cœur de notre modèle, qui est l'avidité, sans cupidité. Et d'ailleurs, Michael Moore va voir ça. C'était assez drôle parce qu'il va voir un pasteur, le prêtre local, et il dit « Oh, capitalism is a sin ». Et donc il trouvait ça assez bizarre, et il se dit « c'est quand même un peu que lui dise ça, je comprends, mais probablement sa hiérarchie ne doit pas être d'accord ». Donc il va voir le gars du dessus, du presbytère, et le type du presbytère dit « Ah non, mais ça va pas du tout ».
Ah bah oui.
C'est vraiment au cœur de notre...
Et comment on distingue cupidité et avidité ? Quelle est la différence ? Ou c'est des synonymes ?
Cupide, c'est beaucoup plus par rapport à l'argent. Et avide, c'est une soif de tout, de n'importe quoi. On est avide de... Juste avide de n'importe quoi.
Comment on traduit ça en anglais ? Alors, greed et... Avidité, c'est greed, non ?
Greed and ignorance, oui, parce qu'on dit greed and ignorance, ouais. Avidité. Oui.
Mais
cupidité, je ne sais pas quelle serait la traduction.
Il y a un mot pour ça.
We have the same word in English as well, don't
we? Cupidity.
Cupidity in English as well.
Okay. It's not as common as it is in French.
Yeah. Yeah.
Cupidité, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise.
Ah, ce n'est pas très courant, ok.
Non, si.
Enfin, ça se dit, mais...
C'est pas...
Enfin.
Oui, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les journaux très fréquemment. Quand même.
Non, le concept, non.
C'est un peu religieux. Ça
se manifeste tout le temps, mais
c'est un peu daté comme concept. C'est un peu religieux.
C'est un mot de la langue française, de la belle langue, enfin de la belle.
C'est un peu soutenu ou non ?
Oui, c'est un peu soutenu.
Bien que ça se manifeste tout le temps.
Moi, j'avais envie de rebondir un petit peu sur ton ces gens dont tu parlais qui étaient attachés à vouloir enseigner le français et pas à faire autre chose. Ok, je pense qu'on peut le voir exactement comme tu dis. En même temps, ces gens-là avaient envie d'enseigner le français. C'était quelque chose dont les émigrés ont besoin, en tout cas pour certains. Donc ça répond aussi à un besoin. Et donc, à partir de là, est-ce que c'est pas aussi pour eux être généreux envers eux-mêmes que de respecter leur désir de faire ça ?
Tout à fait.
Et bon, alors après, qu'ils aient pas continué tout, ça c'est autre chose. Mais, enfin...
Ben oui, tout à fait. Hein. Et dans ce cas-là, c'est à eux de continuer à trouver une structure, c'est possible.
Oui. C'est vrai que là, tel que tu le racontais, la situation dans l'instant demandait à ce que les immigrés soient accueillis, les vêtements lavés, triés, etc. Donc c'est vrai qu'ils ne répondaient pas à ce que ce qui leur était demandé de l'extérieur, finalement, à la situation. Mais c'est aussi, à mon avis, tenir compte d'eux-mêmes que de dire, ben non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Il y a tel besoin qui est là et je vais m'arranger pour répondre à ce besoin qui est là, mais qui prend aussi mon besoin en compte.
Oui, oui, c'est absolument. Et est-ce qu'on peut donc respecter ça? Parce que, comme dit Trungpa, il ne s'agit pas de ne pas se respecter dans cette histoire. Mais est-ce qu'on est libre de poursuivre ça, c'est effectivement, ah, ça, trouver un truc. Et si on n'arrive pas, hein, bah, et on dit, bon, bah, je ne fais rien alors. C'est ça le risque. Si je ne trouve pas exactement la chose que je voulais faire, bah, je ne fais rien.
Je trouve que c'est toujours très difficile de. Il faut avoir quand même l'honnêteté, l'authenticité de pouvoir regarder et de dire est-ce que je suis en train de m'attacher à un truc ou est-ce que. Qu'est-ce qui se passe? À quel niveau est-ce que ça joue? Et c'est vraiment pas facile à savoir. Quand est-ce qu'on est. Juste, on est en train de bloquer sur un truc, s'attacher avec une représentation qu'on a, que les choses devraient être comme ça, qui nous empêche d'être fluide et de répondre à la situation, ou est-ce que c'est pas ça, effectivement, et c'est juste on se respecte et c'est fluide, etc. C'est très difficile, je trouve, c'est très délicat à voir en soi.
Et c'est surtout difficile. Parce qu'il y a un attachement. Si on n'a pas cet attachement, c'est beaucoup plus facile de voir quand c'est juste ou pas juste. Quand c'est vraiment, c'est ça ce que j'ai envie de faire.
À partir du moment où la situation le réclame aussi.
Oui.
Ces cours de français, c'est...
Oui.
Mais je trouve que la question reste la même parce que c'est aussi toujours difficile de savoir si on est attaché.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'on peut aussi être dans l'illusion que... Moi, je suis complètement flexible avec les choses. Pas de souci.
On est bien attaché à sa flexibilité.
Et voilà. Et c'est aussi ça. Notre truc. Non, il n'y a pas de souci.
Moi, je trouve, enfin, en tout cas, c'est un risque dans lequel moi, je suis tombée. Ça,
hein. Bien sûr.
Et il m'a fallu du temps quand même pour. Oui, il m'a fallu du temps. Pour revenir aussi à moi-même. Et en même temps, tout en étant aussi. Tout en soi-disant me montrant flexible et en étant attaché à la flexibilité. Tout en étant aussi bien attaché à.
Oui, où on peut trouver des situations pour comme on n'est pas très provoqué dans sa flexibilité, on se met que dans des situations où de toute manière on peut l'être. Mm-hmm. Ça, c'est facile, comme ça, ça correspond bien à l'image qu'on a de nous-mêmes et on s'expose pas à la possibilité qu'en fait on n'est pas du tout flexible ou alors ça nous emmerde profondément et on dit j'ai pas de soucis parce que moi je suis flexible.
Et plus on fait cette pratique et approfondit cette descente ou cette approche vers soi-même, plus on peut plus facilement, ça veut pas dire que c'est toujours ça, mais on est moins pris, on est moins dans l'emprise. Ça devient plus facile. Comme on disait la semaine dernière, ça existe toujours. Il y a toujours cette personne qui manifeste. Hein. Mais on est moins attaché dans le sens que on peut plus facilement lâcher, peut-être. Que c'est ça. Et on peut voir quand on... Ah oui, non, mais attends.
Quand on est pris, on peut le voir.
Oui. On le voit plus facilement.
Je suis toujours prise, ok, bon, voilà.
Exactement. C'est comme le Dalai Lama. Il a vu. Il voyait qu'il était pris dans ce truc.
Et probablement, il l'a vu alors même que c'était en train de se passer aussi.
Probablement, parce qu'il est
c'est
beaucoup...
C'est ça aussi, c'est qu'on est...
Il est beaucoup plus avancé.
On voit, hein, on peut rigoler, on se dit... Ouais.
Oui. Mais il s'est rendu compte qu'il le faisait. Il dit, bah, tiens, moi, je suis très attachée à tous ces objets, je les veux.
Moi, j'ai tout le temps ça quand je passe devant Star Music à Pigalle.
Ah oui.
Ouais, toujours, tu vois les trucs, je sais pas ce que c'est des jolis trucs, tu peux taper sur, je sais pas, j'ai aucune idée. Je dis, ah, ça doit être bien ça.
Bah oui, on a tout ça, on a différentes choses qu'on veut, tu vois, c'est. Et c'est terrible notre société aujourd'hui parce que je sais, mes enfants m'ont raconté sur Facebook, etc., les trucs, c'est que, et moi j'ai eu cette expérience il n'y a pas longtemps, c'est comme si on passe dans un autre univers, regarder les photos des magnifiques vies des gens sur Facebook, voilà, avec des superbes vacances et des superbes familles et des beaux copains et super voyage, etc., etc. Et soudain, on commence à dire, mais attends, mais ma vie, c'est un peu minable quand même. J'ai pas les bonnes vacances, je connais pas ces gens-là, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Ah, ils étaient en train de faire ça pendant que moi, j'étais chez moi, en train de nettoyer les toilettes, je sais pas. Et c'est terrible. On est accaparé dans notre société. Bon, c'est juste l'exemple de Facebook, mais. Tandis que si on revient à soi, on se rend compte que il n'y a pas quelque chose de l'extérieur de moi qui va me satisfaire, qui va me rendre heureux. Ce ne sera jamais assez, ce qui est à l'extérieur.
Et je pense aussi, enfin moi c'est ce que je ressens, c'est que, mais finalement, plus ça va, plus j'apprécie ce que j'ai. J'ai des choses, j'ai un bel appartement, j'apprécie, ouais, j'apprécie.
On peut vraiment apprécier les choses quand on n'est pas. Je sais, je reviens encore toujours à cet mot attaché. Parce qu'on peut voir les choses telles qu'elles sont, autrement que ce qu'on voyait avant. Bon, je ne sais pas si dans tes autres habitations,
Mais j'étais bien aussi.
Oui,
C'est vrai.
je ne sais pas.
Mais là, j'apprécie.
Moi, ce n'était pas toujours le cas. Il y avait des phases de ma vie où c'était le chaos et je ne voyais pas vraiment mon appartement. Je ne m'occupais pas du tout. C'était un peu le chaos. Ce n'était pas que c'était sale, mais c'était juste je m'en foutais plus ou moins. Donc, je peux apprécier autrement maintenant.
Après, on est attaché à des choses différentes. J'ai fait des entretiens à domicile cette semaine avec des gens qui sont. Et qui achètent des marques de luxe, notamment des bijoux de luxe. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils aient des appartements, mais de ouf, parce qu'ils gagnaient au moins 150 000 ou 200 000 euros par an, en tant que salaire, ces gens-là. Et finalement, leurs appartements étaient un peu comme le mien, quoi, enfin, ordinaire. Par contre, ils avaient je sais pas combien de sacs Chanel et des bijoux qui coûtaient des milliers d'euros. Donc, je suppose que moi, si j'étais à leur place, j'aurais un appartement formidable, mais j'aurais pas du tout des bijoux comme ça. Mais eux, c'était. Donc, on est tous attachés à des choses différentes aussi.
Et puis il y a des personnes qui s'en foutent d'un appart ou de choses et qui préfèrent voyager ou qui préfèrent miser sur l'expérience, sur l'apprentissage et tout. Enfin, et en fait, moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est que quand on parle de générosité, direct, on parle d'argent, on parle de donner quelque chose de matériel. Alors que pour moi, enfin, je sais pas, pour moi, la générosité, parfois, agir pour quelqu'un, donner de son temps, c'est 10 fois plus fort que de donner de l'argent. Parce que déjà, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent. Et est-ce que ça veut dire que ces gens-là seront forcément moins généreux que des personnes qui ont de l'argent? Et en fait, c'est vrai que ça revient au capitalisme, c'est qu'au final, bah, on est dans une société où la générosité est tout de suite associée au matériel. Alors qu'au final, ça a tellement de dimensions. Enfin, je sais pas, moi parfois je vois une personne dans la rue qui me regarde et on se croise et on échange un regard. Et pour moi, c'est un acte de générosité énorme, alors que bon, c'est. Hein, c'est mutuel, il s'est passé quelque chose, c'est beau et c'est fort, ça me donne de l'énergie, ça m'apporte en fait. Et pour moi, c'est ça la générosité, c'est apporter à quelqu'un d'autre, mais pas forcément de l'argent. Parce que si on regarde nos vies et qu'on pense à l'acte de générosité le plus fort que quelqu'un nous ait fait, je pense pas qu'on pense à un don monétaire ou quelque chose comme ça. Alors que quand les gens disent oh, elle est généreuse, machin et tout, souvent c'est quand même apparenté à elle fait des beaux cadeaux ou des trucs comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas,
c'est ça.
Qui m'a toujours un peu choquée.
Parce que si on pense quelle est la chose la plus chère qu'on peut donner à quelqu'un, d'une certaine façon, c'est notre présence, notre attention. Notre temps, etc. C'est pas tellement on lui donne un chèque, quoi.
Notre ouverture.
L'ouverture, exactement. C'est ça. Et sans attachement, sans no strings attached, comme on dit en anglais, n'attendons pas quelque chose en retour. Ne pas être vu comme faisant ça. Je pense à tous ces gens extrêmement riches qui donnent beaucoup au musée. Et donc, il y a une pièce avec leur nom dessus. Pourquoi on a besoin d'avoir notre nom sur cette pièce parce qu'on avait donné de l'argent pour ça? Il y en a aussi qui s'est marqué anonyme. Bon, c'est pas attaché, mais... Bon.
C'est Lacan qui disait « Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas. »
Qui dit ça?
Lacan.
Aimer, c'est... Ah oui, c'est ça.
C'est donner ce qu'on n'a pas.
C'est ça. C'est ça. Oui. Oui, et c'est vrai qu'on parle toujours des choses matérielles parce que les choses matérielles représentent quelque chose.
Une préoccupation, en fait, c'est ça.
C'est une forme qui est donnée à cette... ça représente richesse.
Oui, mais dans ton exemple du musée, c'est intéressant parce que ce que ça met en lien, c'est la générosité telle qu'elle est pratiquée et en fait le narcissisme derrière. Donc ça va ensemble. Et donc c'est toujours en fait cette même idée de contraction en fait. C'est on se replie sur quelque chose, son moi, son narcissisme, notre identité, et c'est ça qu'on ne veut pas lâcher. Et donc on manifeste en fait en voulant avoir son nom, ça revient à l'histoire du rabbin.
Le rabbin qui ne veut pas être vu.
Voilà, on veut être vu, donc c'est la face...
C'est la même chose, en fait. De ne pas vouloir être vu, et le fait de vouloir être vu, ça revient au même. Bon, je crois que le temps...
Il est 25.
Ok, on va s'arrêter là. Merci.
Par contre, je n'ai pas compris, au début, tu as dit que tu devais parler de la générosité.
Non, je dois écrire un article.
Tu nous enverras un lien.
Oui, oui, bien sûr, mais ce n'est pas sur Internet, c'est dans une magazine.
D'accord, tu me diras, c'est ça.
Oui. C'est le même magazine pour lequel j'écris tout le temps, le Regard Bouddhiste, ça s'appelle.
D'accord.
Et c'est, ça va sortir là, je pense que ce sera fin juin, l'article va apparaître. Mais il y a le numéro actuel dans lequel j'ai mon rubrique habituelle, qui est sur ce Coran... beautiful snowflakes, c'est les flocons de neige qui ne tombent pas dans un autre endroit. Parce que quand je l'ai écrit au moment où
Inégé.
Inégé.
Ouais. Tu en as parlé aussi ici.
Ouais.